traduire en masculin, ce que madame dit, et traduire en féminin, ce que madame dit. Je totalise 32 ans personnellement de vie de couple et plus de 25 ans de thérapie conjugale, donc je crois avoir un petit peu appris le monde féminin. Mais c'est sûr que parce que je suis un homme, il y a une limite à ce que je peux connaître du monde féminin. Je ne peux pas le connaître de l'intérieur. Hein? Il n'y a qu'une femme qui peut vraiment savoir qu'est-ce que c'est que d'être une femme. Il n'y a que le semblable qui peut reconnaître le semblable. Mais à force d'entendre les autres, l'autre sexe, nous dire des choses alors qu'il n'y a pas de charge émotive, hein, c'est sûr qu'on est beaucoup plus à l'écoute et que je peux arriver à traduire à monsieur ce que madame est en train de dire et vice-versa. Donc, dans le mode d'emploi du couple, la première étape, c'est d'apprendre à être heureux par soi-même, pour soi-même, et d'aller chercher quelqu'un qui va devenir une espèce de complice pour pouvoir cheminer, pour pouvoir, si je vous définis qu'est-ce que moi j'entends par amour, je présente ça sous forme d'un triangle. Pour moi, dans l'amour avec un grand A, il y a évidemment une attirance physique et sexuelle. Hein? C'est à la base, mais ce n'est pas suffisant pour former un couple. Il y a ce que j'appelle et ce que je réunis sous le terme de admiration, qui est l'aspect plutôt, ici c'est plus physique, ici c'est plus la dimension psycho-émotive, dans ce corps-là que je vois, qui a-t-il? Et là, la personne qui est dans ce corps-là que je peux trouver agréable, là, il faut évidemment que je trouve admirable la personne que je découvre dans le corps que je rencontre. Et la troisième dimension, c'est un couple, c'est fait pour réaliser des projets. Un couple, là, c'est deux personnes qui ont le même rêve, qui ont le même objectif. Donc, être heureux, seul. J'ai évidemment des besoins dont la satisfaction dépend de la présence de quelqu'un d'autre. Il y a le couple, il est là pour répondre à au moins une vingtaine de besoins humains. Et on est deux pour essayer de s'entraider, à les satisfaire. L'autre condition sine qua non pour avoir un mode d'emploi qui va fonctionner, c'est de connaître aussi les étapes de l'évolution d'un couple. Hein? Tout le monde, on voudrait que la première phase dure toujours. La passion, la lune de miel, la séduction. Tout le monde, on voudrait que ça dure. Parce qu'on flotte à ce moment-là. Mais ce qu'on ne sait pas à ce moment-là, c'est qu'on n'est pas en amour avec la personne qui est en face de nous. On est en amour avec un fantasme. On est en amour avec ce que j'imagine de la personne qui est en face de moi, qui se présente sous son plus beau jour. Et moi, je fais la même chose. Je suis en amour avec les sensations que la phényléthylamine et autres hormones sécrétées par le cerveau vont me faire vivre en tant que plaisir sensuel, sexuel. Et là, je fantasme sur différentes choses et je voudrais toujours être là. Mais vous le savez, soit par expérience personnelle ou professionnelle, que la passion finit par passer. Que dans la passion existe le germe de la destruction du désir. Et que il faut savoir, pour être heureux en couple, que le couple, justement, contrairement à ce que nos grands-parents disaient, que 1 plus 1 fait 1, que 1 plus 1 fait 3. Vous avez un homme, beaucoup de testostérone et autre chose du même genre. Vous avez une femme, de la progestérone, qui amène des conséquences, des comportements, des façons de voir la vie différentes. Et l'union de ces deux-là fait un nous. 1 plus 1 égale 3. Moi, toi et nous. Et dans ce nous-là, il y a un paradoxe. Un paradoxe de la passion. Au début, dans la première phase, ce qu'on veut, c'est fusionner. Et c'est très agréable. Et tout le monde, on voudrait rester là. Mais au même titre que quand je mange, je finis par ne plus avoir faim. Quand je fusionne, je finis par ne plus avoir le goût de fusionner. Et là, le besoin paradoxal revient, c'est-à-dire la recherche de l'autonomie.